Bonjour, je suis Jean-François Christ. J'ai le grand plaisir et l'honneur de présider cette association qui s'appelle ACORG depuis sa création, il y a maintenant 10 ans. On va fêter le 10e anniversaire. ACORG, c'est Art et Connaissance de l'Orgue Espagnol à Grand-Villard, après avoir été Association pour la construction de l'orgue ibérique de Grand-Villard. Évidemment, on a changé notre dénomination tout en conservant notre sigle et notre beau logo.
Alors pourquoi elle a été créée, cette association?
Il y a eu une première question d'un paroissien ou chef de chœur de la paroisse qui, au départ, souhaitait remettre en état, au moins pour l'accompagnement liturgique, un orgue existant qui n'avait pas grande valeur ni historique ni musicale. Et très très vite, on s'est rendu compte que le refaire fonctionner et en sortir quelques sons, c'était possible, mais qu'on ne ferait jamais rien d'autre avec que d'accompagner de la liturgie. Et je pensais, c'est ce que j'ai dit donc à ce monsieur, je pensais que le rôle d'un orgue ne pouvait plus s'arrêter à ça. De là est venue l'idée, non pas de faire des tentatives de réparation, mais de faire un orgue neuf. Et très rapidement, après avoir consulté Jean-Charles Ablitzer, on en est venu à cette deuxième conclusion, qu'il était intéressant d'enrichir le parc existant, en quelque sorte, en faisant le constat que des orgues espagnols, comme celui qui existe ici dans cette église, sont quasiment absents du paysage français. Une association se crée donc autour de ce projet. On convainc le maire, qui deviendra vite maître d'ouvrage, la commune de Grand-Villard, et puis on présente un projet, un appel d'offres est lancé, et donc des plis sont ouverts pour que l'un d'eux soit retenu. Et celui qui a été retenu est celui d'un facteur d'orgue espagnol ou d'un groupement de facteurs pour un projet vraiment extraordinaire. C'est celui que vous venez de découvrir visuellement, que vos auditeurs ne verront pas,
Ah
mais
si, en photo.
en photo, et que l'on incite à venir découvrir lors de nos concerts. Il y a quand même une anecdote assez croustillante, puisque cet orgue est arrivé ici en plein mois de janvier. Et lorsque le camion a été vidé, que tout a été entré dans l'église, on s'est aperçu que sur le toit du bâtiment, sur le toit de l'église, il y avait une vingtaine de cigognes qui tournaient et qui faisaient une halte. Alors bon, nous, on a eu la faiblesse de penser qu'elles venaient vérifier la bonne livraison de l'instrument, bien
Voilà,
sûr.
bah oui.
Le 15 janvier, c'est rare quand même de voir des cigognes arriver ici à Grand-Villard.
L'église Saint-Martin de Grand-Villard, cette semaine dans 100% reportage avec Alexandra Maine. L'orgue qui s'y trouve est situé à gauche du transept, ce qui n'est pas courant en France. Ça l'est un peu plus en Espagne et c'est justement le pays d'origine de l'instrument qui est arrivé en 2018 dans le territoire de Belfort. C'est un orgue qui a plusieurs particularités. Écoutez Jean-François Christ, président de l'ACORG.
Alors, celle qui saute aux yeux en premier, c'est celle que l'on voit quand on rentre dans l'église. Et déjà, on est complètement fasciné par le côté flamboyant de l'instrument. Ensuite, et c'est ça qui est le plus intéressant musicalement, c'est la particularité sonore. Les jeux ne sont pas traités de la même façon selon que l'on est en Espagne ou que l'on est en Allemagne du Nord ou en France. D'ailleurs, à ce propos, il sera intéressant d'évoquer ce que nous avons appelé ici maintenant la ligne des orgues remarquables, qui montrera à quel point ces sonorités peuvent différer d'un pays à l'autre.
Alors justement, puisque vous l'évoquez, la ligne des orgues remarquables, qu'est-ce que c'est?
On est parti de l'idée, encore une fois, qu'on avait sous la main le bénéfice extraordinaire d'instruments typés. Monsieur Ablitzer, que vous verrez tout à l'heure, avait déjà initié la construction d'un orgue italien, puis d'un orgue nordique qui se trouve tous deux à Belfort. L'orgue français de la cathédrale, évidemment, et puis il manquait une représentation de ces quatre grandes écoles de facture d'orgue qui ont essaimé au moment du baroque ou même un peu avant, au moment de la Renaissance. C'est l'école espagnole qui n'avait pour nous pas franchi les Pyrénées. Il y a très peu d'exemplaires d'orgue espagnol en France. On en est peut-être à cinq aujourd'hui. J'ai la faiblesse de penser aussi que aucun de ces cinq, sauf celui de Grand-Villard, ne va aussi loin dans la recherche musicale et historique. Cette idée de pouvoir regrouper sur un concept touristique ces orgues si singuliers nous a paru comme une évidence et c'était dans les têtes depuis plusieurs décennies. J'oserais même dire 40 ans. Et avec la naissance de cet orgue espagnol, et tout de suite derrière, à Bernevezin, mais du côté suisse d'un orgue flamand, on avait tout ce qu'il fallait pour proposer aux touristes une découverte de la région avec un fil conducteur, un fil rouge, que l'on a appelé la ligne des orgues remarquables, qui, pour l'anecdote encore une fois, tombait au moment de la remise en exploitation de la ligne ferroviaire Donc on est parti sur l'idée d'un rapprochement entre l'Europe des régions, etc. Mais enfin bon, le fil rouge, c'est bien l'orgue. Et le touriste qui voudra bien nous faire confiance, ben pourra découvrir dans la région bien d'autres choses, voire même de la gastronomie locale.
Hein. Et la ligne ferroviaire dont vient de parler Jean-François Christ, c'est bien entendu la ligne Belfort-Del. Jean-François qui est président de l'ACORG, qui a pour objectif la mise en valeur de l'orgue de l'église Saint-Martin de Grand-Villars. Pour autre, des Franc-Comtois engagés sur le terrain de la musique et du patrimoine. Et nous sommes à Grand-Villars cette semaine. Nous découvrons l'orgue d'origine espagnole qui se trouve à l'église Saint-Martin et dont le modèle se trouve dans la collégiale de Toro en Castille. Écoutez Jean-François Christ, président d'art et connaissance de l'orgue espagnol à Grand-Villars.
C'est une reconstitution à l'identique de cet instrument qui, en revanche, est privé de ses tuyaux. Donc il a fallu également faire un travail sur le plan sonore et aller rechercher des sonorités typiquement espagnoles et caractéristiques. Et ça, ça a été le travail des facteurs d'orgue et de Jean-Charles Ablizère, qui connaît bien ces instruments de Castille et d'Aragon et qui est allé prendre sur tel instrument, dans telle église, le jeu de Dulcaina, il vous le fera entendre tout à l'heure sans doute, ou alors le jeu de flûte qui date du XVIe siècle. Et ces tuyaux ont été recopiés un par un pour être remis ici à Grand-Villars, si bien qu'on a une sorte de synthèse de l'orgue aragonais et castillan de la Renaissance, ici à Grand-Villars.
Alors, nous voici devant l'orgue. Est-ce que vous pouvez, Jean-Charles Ablizère, nous parler de la particularité des touches ?
Oui, alors les claviers sur l'orgue espagnol sont très spéciaux parce qu'ils possèdent ce qu'on appelle l'octave courte, c'est-à-dire qu'il manque, dans la partie la plus grave, des touches. Il manque le premier fa dièse, le premier sol dièse. Alors, on a fait l'économie de ces gros tuyaux parce qu'on les utilisait pratiquement pas dans la musique. Mais du coup, ça fait que sur le plan technique, pour le musicien, il y a une difficulté qui se présente. C'est-à-dire que quand il doit jouer un ré, il doit jouer un fa dièse.
Ah oui.
Quand il doit jouer un mi, il doit jouer un sol dièse. Mais on est obligé de passer par là parce que sinon, avec la musique espagnole telle qu'elle est écrite, on n'arrive pas à atteindre les touches qui sont les plus graves.
Oui.
Puisqu'on joue les deux mains sur le même clavier. Alors, vous avez remarqué qu'il y a une série de registres qui sont de part et d'autre. Donc, le clavier est coupé en deux parties, c'est-à-dire que je dois tirer un registre sur le côté gauche et un autre sur le côté droit.
D'accord.
Pour avoir la même sonorité sur toute l'étendue du clavier. Voilà. Et là, je vais avoir, après avoir tiré cette dizaine de registres, le son le plus brillant de l'orgue, je dirais pas le plus fort, mais le plus brillant, qu'on appelle lieno. C'est la traduction de plein, c'est toute la plénitude de l'orgue et avec le maximum de richesse de timbre.
Oui, c'est bien moi, Fantomas. Non, je déconne. Jean-Charles Ablizère, l'organiste belfortin originaire de Grand-Villars, nous emmène cette semaine, Alexandre Amène, pour ce 100% reportage autour de l'orgue de l'église Saint-Martin de Grand-Villars. Un orgue a deux vies. Une vie pour les célébrations religieuses et une autre pour les concerts. C'est le cas de l'orgue espagnol de l'église Saint-Martin à Grand-Villars, qui est désormais prisé par de nombreux artistes. Un succès que l'on doit aussi à Jean-Charles Ablizère, l'organiste belfortin. Il est dans 100% reportage au micro d'Alexandre Amène.
Eh bien, je suis Jean-Charles Ablizère. Je suis organiste titulaire de l'orgue de la cathédrale de Belfort. C'est un orgue historique. J'étais professeur au conservatoire pendant 37 ans à Belfort. Et maintenant, je suis toujours retraité, actif.
On vous voit à chaque concert d'orgue, je crois qu'on peut le dire.
Oh, presque, on va dire, oui. Chaque fois qu'il y a un orgue et des tuyaux, je suis assez présent, en tout cas à Belfort. Voilà, je peux pas être partout.
En tout cas, voilà, ça fait plaisir de vous voir ici dans l'église de Grand-Villars, où il y a ce magnifique orgue que vous connaissez évidemment, mais en plus vous êtes natif de Grand-Villars, faut quand même le rappeler. Comment vous avez vécu cette aventure et cette arrivée de l'orgue, de cet orgue espagnol ?
Mais écoutez, c'était vraiment une aventure, vous pouvez le dire. Alors moi, j'ai eu un rôle essentiellement esthétique, technique aussi, parce que je me suis occupé de tout ce qui faisait la partie administrative, d'appel d'offres, d'analyse des offres et le suivi des travaux, aussi bien en Espagne qu'ici. Donc j'ai eu vraiment un rôle technique et artistique important. Bon, maître d'œuvre, c'est effectivement le mot idéal, c'est le mot qui convient.
Parlons de la place de cet orgue, en fait, dans l'église de Grand-Villars, parce qu'il n'a pas la place habituelle.
Oui, exactement. Alors, l'ancien orgue était, comme vous le dites, sur la tribune, et c'est la place habituelle. Mais en Espagne, on a presque toujours ce genre de configuration. L'orgue se trouve sur le côté du transept ou alors dans le chœur. On a aussi cette façon de faire en Italie, hein, où les orgues sont rarement en tribune, presque jamais. Et puis, même en France, à la Renaissance, les orgues étaient souvent sur des jubés. Et le jubé, c'était une petite séparation entre le chœur et la nef.
Alors du coup, est-ce que musicalement, ça change quelque chose ?
Et oui, c'est important. C'est important parce que souvent, on a un orgue qui est placé trop haut sur les tribunes. Et puis, on a une perception du son qui est trop éloignée. Et l'orgue, en général, sonne très bien quand il est à mi-hauteur de la hauteur totale de la nef. Donc c'est le cas ici, on est un petit peu plus bas. Et puis ça permet également d'avoir la vue sur l'instrument, d'être en même temps comblé par le côté visuel, parce que quand l'orgue est situé sur la tribune, bon, on lui tourne le dos, alors on l'entend, mais on ne le voit pas. Donc c'est vraiment une disposition qui est vraiment très séduisante, autant sur le plan sonore que visuel.
Et demain, Jean-Charles Lablitzer nous fera découvrir un son surprenant de l'orgue espagnol de l'église Saint-Martin.
Qu'est-ce que vous l'avez dit, il a été question d'aller en Espagne et puis de repérer dans les orgues historiques des jeux caractéristiques qu'on voulait reproduire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de prendre les côtes des tuyaux exacts et puis de les harmoniser, les mettre en son exactement comme ces tuyaux historiques. Et il y a un jeu particulier que vous entendrez là tout à l'heure qui s'appelle Dulzaina, c'est un jeu d'anches. Ça vient du mot Dulcène, c'est un instrument à anches à la Renaissance. Et le facteur d'orgue, qui s'appelle Christine Vetter, qui a fabriqué les tuyaux et mis ces tuyaux en son, disait un jeu de Dulzaina, il doit avoir un son caractéristique qui rappelle le bêlement des moutons après la tonte. Quand on traverse l'Espagne, là, oui, les plaines de Castille, alors on a une vision extraordinaire, ce qu'on voit plus du tout en France, peut-être un peu dans les Pyrénées, mais on voit des troupeaux de moutons, mais oui, avec leurs bergers, voilà, dans ces endroits un petit peu arides, hein, où il n'y a plus de forêt, c'est le centre de l'Espagne. Et alors, donc, eh bien, il y a ce jeu de Dulzaina qui doit imiter le bêlement. C'est le bêlement pour les moutons. Hein.
Après la tonte.
Après la tonte, c'est important. Ah oui. Parce qu'avant, ils n'ont pas du tout. Mais je crois qu'ils ont été contents d'être entendus. Ce qui est la caractéristique du mouton. Je pense que pour nous, c'est un petit peu pareil. Hein.
On est contents d'aller chez le coiffeur. Aussi.
Donc, je vous mets quelques moutons séparés. Voilà. Et le troupeau.
C'est vrai qu'ils ont l'air très contents, ces moutons.
Ah ben, c'est vrai. Un troupeau joyeux.
Oui, exactement. Hein. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à vous d'être venu nous rendre visite ici, jusqu'en Espagne, à Grand-Villars. Voilà.
L'orgue de l'église Saint-Martin de Grand-Villars qui fait partie de la ligne des orgues remarquables, c'est l'association Art et Connaissance de l'orgue espagnol à Grand-Villars qui assure sa mise en valeur. Vous avez toutes les infos bien sûr et les photos sur francebleu.fr, Belfort-Montbéliard. Vous pouvez télécharger tous les épisodes en podcast via l'appli France Bleu. Et la semaine prochaine, direction la station du Lac Blanc à Kaysersberg en Alsace. 100% reportage la semaine prochaine avec Karine Dupont.